Maille au cachet oriental. J'ai réduit totalement cette
étude. Moi, c'est l'île de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en conjuguant les deux statuts de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous propose ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. La République démocratique du Congo rejette et condamne formellement l'ingérence des gouvernements étrangers dans ses affaires intérieures. Cette déclaration a été faite au cours d'un point de presse le jeudi 7 juillet par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Selon lui, les institutions parlementaires étrangères s'autorisent à délibérer, statuer et légiférer sur les affaires de la RDC en s'appuyant malicieusement sur un droit d'ingérence humanitaire par des sanctions ciblées contre des fonctionnaires congolais. Comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-7315 pour votre intervention en direct. André Mongou est à la mise en onde, Pierrot Lamégé à la réalisation et au standard de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Martin Sebou Jangoué. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Vous êtes nombreux à avoir commenté cette thématique sur notre page Facebook, Sephora, Matona. Vous dites que vous êtes désolé et d'apprendre que ces propos sont sortis de la bouche des autorités congolaises. Et par ailleurs, vous avez fait une réflexion sur l'indépendance acquise depuis 60 et vous avez dit que voilà, l'autonomie politique et nationale, c'est-à-dire la capacité pour le peuple à s'autodéterminer, mais quand l'ordre public international est en péril, comme c'est le cas dans notre pays. Maintenant, avec la violation de l'article 220, 70 de la Constitution, la communauté internationale doit intervenir pour rétablir l'ordre et assurer la stabilité constitutionnelle de notre pays. Merli Shinga, vous êtes à Kananga. Si les institutions parlementaires d'autres pays se permettent de condamner et sanctionner les fonctionnaires de la RDC, c'est lorsque on voit l'intérêt humanitaire en péril ou c'est parce que les autorités congolaises sont des spécialistes en adhérant aux contrats traités internationaux ou encore d'autres accords, mais sans pour autant les appliquer. Guillaume Ngamboué, depuis Bandundouville, cette ingérence est caractérisée par le non-respect de la Constitution, non seulement ça, mais aussi manque de patriotisme, parce que s'il n'y a pas d'élection, s'il n'y a pas élection, le pays ne sera pas dans la paix. Mesdames et messieurs, merci d'avoir accepté de participer à ces débats. Maître Trésor Likonda, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue, la parole aux auditeurs.
Bonjour JR et bonjour à André Mongou et Baye, encore et toujours fidèle au poste.
Alors, quel est votre avis par rapport à cette thématique?
Bon, mon avis est simple. Je pense que dans notre pays, on a comme l'impression que les gens veulent limiter la démocratie à la seule élection présidentielle, ce qui n'est pas tout à fait normal. Alors, je soutiens fortement cette position du gouvernement manifestée par le canal de son porte-parole pour dire que nous sommes Congolais et nous les resterons. Au-delà de tout sentiment, moi je pense que nous ne pouvons pas soutenir de telles choses, étant donné que notre pays est indépendant, il est souverain comme tous les autres pays du monde. Et que lorsqu'il y a un problème, même qui dérange la démocratie, nous ne pouvons pas accepter qu'un autre pays puisse venir nous dicter des choses, un autre peuple vienne dicter le peuple congolais, lui dire ce qu'il doit faire, lui imposer une ligne de conduite comme si nous étions sous tutelle, ce qui n'est pas normal. On a l'obligation de coopérer, ce qui est aussi correct, dans le cadre des relations internationales. Tout le monde a besoin de tout le monde. Mais s'il s'agit des affaires internes, on a plus besoin des conseils des autres, du soutien des autres, de l'aide de l'autre, que des obligations venant d'ailleurs. Donc, nos problèmes à nous ne doivent pas constituer une occasion pour les autres pays de venir nous dicter des choses. En tout cas...
Oui, Maître Likonda, quand vous avez parlé des affaires intérieures, vous faites allusion à quoi concrètement ? Aux élections, au processus électoral, à la politique qui prévaut actuellement, la situation qui prévaut, la situation politique qui prévaut actuellement ?
Principalement la situation politique qui prévaut actuellement, et on met plus l'accent sur l'élection présidentielle, avec aussi le fameux délai constitutionnel qui est évoqué du jour au lendemain comme un principe absolu qu'on doit à tout prix respecter, et pourtant les réalités du moment nous montrent à suffisance que la Commission électorale nationale indépendante est déjà dans l'impossibilité, l'incapacité de faire respecter ces délais constitutionnels. Alors, au-delà de la CENI, moi, je ne vois pas une autre institution du pays qui puisse être en mesure de nous permettre de respecter ces délais constitutionnels. Et là encore, un autre pays étranger. Ce ne sont pas les Américains qui viendront pousser la CENI à respecter les délais constitutionnels, étant donné que la CENI est visée à des problèmes d'ordre financier, matériel et beaucoup de choses aussi. Bon, s'il y a les problèmes de violation des droits de l'homme, des droits humains, qu'on évoque tout le temps dans notre pays, ça c'est réel, je n'en doute pas. Mais aux États-Unis, il y a là aussi, vous savez l'histoire de la prison de Guantanamo.
Oui, maître Trésor. Je crois que il y a d'autres observateurs qui font remarquer que nous sommes, en fait, quand vous évoquez les États-Unis ou encore d'autres pays, nous sommes devant des réalités différentes. Et par rapport à l'histoire politique des uns et des autres, il n'y a pas de comparaison. Voilà, par rapport à ce que nous vivons actuellement en RDC. Est-ce que vous donnez raison à ceux qui estiment que nous avons nos réalités et nous avons des pays qui nous accompagnent dans ce processus depuis la démocratisation de la RDC en 1990 jusqu'à aujourd'hui? Nous devons aussi avoir un regard très soutenu par rapport à toutes les résolutions des Nations Unies prises dans l'accompagnement de cette politique intérieure, et aussi les voisins qui ont un regard aussi dans cet accompagnement, entre autres dans la région ou dans la sous-région.
Mais je leur donne parfaitement raison. La démocratie qu'il y a aux États-Unis, ce n'est pas la démocratie qu'on peut trouver en France. Hein? Ce qu'il y a en France, ce n'est pas ce qu'il y a en Belgique, ainsi de suite. Hein? Depuis quelle année on a organisé les élections, par exemple, en Angola? Qui peut répondre à cette question? Mais au Congo-Brazza, qu'est-ce qui s'est passé? On veut dramatiser la situation de la RDC comme si
le problème,
il nous aide à sortir de cette crise.
Quelle est la crise? Selon vous, M. Trésor, quelle est la crise?
La crise, c'est la difficulté d'organiser les élections dans les délais prévus par la Commission électorale nationale indépendante.
Alors ceux qui répondent que diriger c'est prévoir, il a fallu que pendant des années qu'on puisse mettre de côté un peu d'argent pour organiser les élections, c'est pas quelque chose qui tombe de nu. Tout le monde savait qu'on arriverait en 2016, que ce sera une année électorale.
Oui, diriger c'est prévoir, c'est bien. Mais prévoir, ce n'est pas créer des miracles. J'avais dit au début de cette année, au cours de cette même émission, que à avoir la situation telle qu'elle se présente, il est difficile de parler de 2016 comme une année électorale, puisque la CENI est butée à beaucoup de problèmes et son président avait déjà crié haut et fort qu'il n'y a pas de moyens, on est dans des
problèmes
financiers, mais jusqu'à présent, c'est difficile.
Merci beaucoup, Maître Trésor Likonda, d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre Sylvain qui est à Bounia. Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi Maître Trésor, qui a soutenu d'ailleurs cette position du gouvernement, affirmée par le billet de son porte-parole, qui dit que notre pays est souverain. En tant que tel, il ne doit recevoir d'injonction d'aucun pays parce que la RDC n'est pas sous tutelle. Alors, comme il s'agit des affaires intérieures, la RDC n'a simplement besoin des conseils provenant de la communauté internationale. Qu'en pensez-vous, Sylvain?
Comme tout Congolais, cette réaction est tout à fait normale. Mais il faut peut-être aussi relever quelques observations pour que le débat soit passionné de toute émotion. Les relations internationales et la coopération internationale obligent que certains États puissent coopérer. Mais cette coopération tient compte de beaucoup d'éléments, entre autres la capacité de pouvoir gouverner son État pour les démocraties établies, et aussi la capacité de pouvoir instaurer un système qui respecterait la vision de la gouvernance mondiale des États. Il faut oublier une chose, c'est que nous ne sommes pas dans le circuit fermé de gestion des États. Avec l'internationalisation de tous les outils et paramètres de gouvernance de la cité, nous nous appelons aujourd'hui citoyens du monde. Pourquoi il y a les Nations Unies? Pourquoi il y a toutes les organisations au monde qui forment aujourd'hui la communauté internationale? C'est tout simplement parce que les capacités sont annuelles. Ce que les gens veulent appeler ici en termes de droits, la souveraineté des États, a été frôlé de son indépendance du moment où, chaque fois qu'il y a un problème qui intervient dans un pays X, il y a un pays Y qui intervient. Ceci veut dire quoi? Il faut que les communs des mortels comprennent que dans la gestion de l'État aujourd'hui, il y a plusieurs paramètres qui interviennent. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le levier de la gestion d'un État ne se limite pas aux institutions politiques légalement établies. Il y a les ONG, ça veut dire les organisations non gouvernementales, il y a les élus, comprenez-vous, il y a aussi d'autres entités qui gèrent l'État en dehors des entités politiques nationales qui jouissent d'une souveraineté telle que je l'ai attendu dans la bouche d'abord de M. Lambert Mende, qui est le ministre du gouvernement qui a réalisé cette position-là, mais aussi ce que je viens de suivre du premier auditeur. Tout ce que les gens doivent comprendre, c'est que lorsque nous regardons l'histoire de la RDC, nous avons été accompagnés par la même communauté depuis l'après-indépendance. Monsieur le journaliste, je ne voudrais pas que le peuple congolais l'ignore aujourd'hui. Lorsque nous sommes allés réclamer l'indépendance en 1885, la première mission de l'ONU, qui s'appelait l'ONUC, était venue dans le cadre de consolider la gestion politique du pays. On n'avait pas appelé ça ingérence politique des autres États. Puisque nous étions en train d'agir en termes de coordination d'une structure qui nous résistait, nous tous, puisque à cette époque, le Congo faisait aussi partie de l'ONU. Aujourd'hui, la MONUSCO, après la guerre de 1997, a commencé par la MONUC à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, à sa mission de la stabilisation des institutions déjà qui se stabilisent, donnez-moi la tautologie. La MONUSCO est en train d'apporter un petit plus. Au-delà de la MONUSCO, monsieur le journaliste, il faut que les gens comprennent que des organisations telles que les Nations Unies, et même les grandes puissances, puisque c'est ce que les gens ne veulent pas accepter, dans la politique ou dans la gestion de l'État, il y a des États puissants, il y a des États faibles. Hier, nous avons suivi ce dialogue entre le Congo avec le professeur Molaire, qui l'a bien dit. Je voulais le relayer ici pour ceux qui ne l'avaient pas entendu. C'est que les rapports d'État divergent de la capacité que les autorités politiques ont mise en place pour gérer une cité. Si aujourd'hui les États-Unis peuvent se lever pour dire à la Somalie, écoutez, monsieur, tu gères mal ton État, il faut que les gens se posent la question de pourquoi il le fait ainsi. Ça veut dire le point, c'est quoi? Lorsqu'il y a les gestions de la RDC et qu'il y a eu trouble, il y a eu crise, cette crise ne va pas seulement frapper l'État congolais, ça va commencer à endoctriner les États voisins.
La région et la sous-région.
Voilà, la région et la sous-région. C'est à ce sens-là que les États qui ont déjà pris un ensemble de politiques de mesures politiques anticipatives essayent d'intervenir pour dire à leur homologue, attention, si vous ne faites pas ça, nous risquons d'arriver là-bas. Et à quoi cela consiste à une ingérence? Moi, je voudrais ici que tout le monde rentre dans des petites leçons que nous avons vues à l'école, à l'université, pour que les gens comprennent que nous ne pouvons pas, pour des sujets aussi essentiels comme celui-ci, que nous puissions crier à la politique. Il y a un problème sérieux dans ce pays. C'est que, à un moment donné, nous allons nous retrouver devant un blocage, puisque lisez ce qui est écrit sur les élections. Les élections constituent un moment épineux pour les États. Ça veut dire quoi? Soit à travers les élections, vous stabilisez les institutions, vous pérennisez les institutions politiques, soit vous déstabilisez ces institutions. C'est ça le grand danger. Et aujourd'hui, le débat qui s'est fait au Congo, je voudrais peut-être citer par là. Le débat s'est fait autour du risque de voir que l'avènement des élections du nouveau président qui sera élu après le président Kabila soit un problème pour le Congo. C'est comme ça les États-Unis disent, il faut qu'on s'arrête, qu'on est valide et c'est tout à fait normal. Moi, je n'ai pas vu un seul exemple que certains diplomates aient eu des problèmes contre l'individu congolais, ni même contre le président Kabila. Je n'en ai pas vu, je n'ai pas vu ça. Le problème ici, c'est qu'on veut seulement interpeller l'État congolais pour garantir non seulement la sécurité intérieure de la RDC, la sécurité de la région et de la sous-région et la sécurité internationale. Puisque souvenez-vous, toutes les grandes résolutions qui ont été émises sur la situation sécuritaire en RDC rappellent toujours la souveraineté de l'État congolais. Alors pourquoi nous voulons faire des analyses obsolètes, j'ai dit, c'est la position qu'a prise le gouvernement congolais risque d'être obsolète et vidée de son sens lorsqu'on ne reconnaît pas l'accompagnement qui a été fait par la même communauté, peut-être par aussi les mêmes individus, et qu'aujourd'hui, puisqu'on dit quelque chose qui sonne très mal au but, sinon on est en train d'interférer.
Oui, ben Sylvain, quel rapport, quel lien faites-vous entre, disons, quand nous citons l'intervention du ministre de communication, le porte-parole du gouvernement, lorsqu'il dit que, en fait, l'ingérence, lorsqu'il évoque l'ingérence des gouvernements étrangers dans les affaires intérieures, en faisant allusion à la délibération, c'est ce gouvernement qui statue et légifère sur les affaires de la RDC en s'appuyant malicieusement sur un droit d'ingérence humanitaire. Alors, que faites-vous comme lien entre l'ingérence du gouvernement et avec le droit d'ingérence humanitaire?
Monsieur les journalistes, à l'époque actuelle, où les États sont gouvernés sur des bases de vision globale de la gestion des États au monde, chaque État essaye de développer non seulement des capacités d'État politique intérieure, mais aussi les États mettent en place des politiques responsables et je dirais même dissuasives sur le plan extérieur. Ça veut dire quoi? Il y a des États aujourd'hui qui ont des outils puissants en matière de gestion de leur espace, et cet outil permet à ce qu'ils puissent gérer l'espace qui n'est pas le leur. Comment ça? Regarde aujourd'hui la physionomie de la rébellion RD congolaise. C'est l'Ouganda, c'est le Rwanda, c'est le Burundi avec les LRA, les ADF et aussi les FDLR. Mais pourquoi ces rébellions sont chez nous? Parce que ces rébellions sont incapables de s'implanter et d'avoir leurs activités sur le sol de l'État qui est leur génitaire, mais ils sont chez nous. Pourquoi? Parce que les États qui regorgent ces rébellions les ont mis dehors et ils ont trouvé chance puisque notre politique de la puissance étrangère n'est pas capable de pouvoir nous protéger de toute intrusion et je dirais même de toute rébellion, nous absorbons cela chez nous. Et donc lorsque une institution prend une décision, ou soit un parlement d'un pays du monde prend une décision, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans une gestion internationale de nos gestes.
Merci beaucoup. Merci Sylvain. Je crois qu'il y a... on va accorder la parole à d'autres personnes, mais nous retenons que pour vous, en relation internationale, la coopération entre les États tienne à certains principes, entre autres la capacité de pouvoir instaurer un système qui respecte la gouvernance mondiale. Merci beaucoup. Alain, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup par vos auditeurs.
Quel est votre avis après avoir suivi, écoutez, Maître Trésor et Sylvain de Bounia?
Juste, je le donne encore à tous les intervenants qui sont passés avant moi, même par rapport à l'intervention du ministre lui-même de la communication et porte-parole du gouvernement. Il avait raison tout au début de l'intervention pour condamner l'ingérence de la communauté internationale. Le mal, c'est quand je suivais son intervention, il a fini par injurier les propres sujets congolais.
Oui.
Vous dites que maintenant la communauté internationale avait raison de s'ingérer dans les affaires intérêts de la République démocratique du Congo.
Voilà. Alors, Alain, aujourd'hui, quel est votre sentiment par rapport à la souveraineté de l'État?
Oui, par rapport à la souveraineté de l'État, un État pourrait être tellement souverain. Un État doit être responsable sur les différentes positions de puissance qui sont en train d'être prises au sein du gouvernement. Et si vous prenez une décision, vous prenez des positions que vous ne respectez pas, mais là, nous ne disons pas qu'il y a la souveraineté.
Nous ne disons pas, il faut respecter ce que le gouvernement prend comme décision, ce que la constitution prévoit, ce qu'on prépare comme planning de la société. Mais si vous ne préparez toutes ces choses, vous ne donnez pas vos intérêts à ce que vous avez pris vous-même comme planning de la société. C'est pour dire que la souveraineté n'est pas à l'application.
Merci beaucoup Alain. On va terminer cette première série avec vous, Franck. Franck Mboli, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Franck.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à toute l'équipe de PA.
Quel est votre avis, Franck? Après avoir suivi maître Trésor Likonda, qui a soutenu d'ailleurs cette position du gouvernement, en disant que la RDC étant un pays souverain, en tant que tel, il ne doit recevoir d'injonction d'aucun pays, parce que la RDC n'est pas sous tutelle, et comme il s'agit des affaires intérieures, la RDC n'a simplement besoin des conseils, hein, des conseils comme par exemple les bons offices tels que affirmé dans la résolution 2277. Sylvain a beaucoup plus parlé de la capacité de pouvoir instaurer un système qui respecte la gouvernance mondiale, comme il n'en est pas le cas, raison pour laquelle aujourd'hui, les pays, les différents pays ou la communauté internationale qui accompagne la RDC depuis 60 dans le processus de démocratisation, a quand même le droit d'apporter aussi ses beaux offices.
Oui, merci pour la parole. Je crois que je vais tenter d'argumenter par rapport à ce que Maître Licon va estimer de Bougnon et de présenter là. Monsieur le journaliste, vous savez que chaque État de ce monde, qui se soit indépendant et souverain, qui est gouverné selon les normes légales de la démocratie, réagit violemment là où sa souveraineté est quelque peu remise en question, bafouée ou ignorée. Pour les spécialistes du droit, ils nous disent toujours qu'en droit international, on parle des ingérences étrangères là où on veut protéger et préserver sa souveraineté. Parce que la souveraineté d'un État, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négocier. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Jusqu'à ce point, on peut trouver que les objections du porte-parole de notre gouvernement ont des raisons d'être ou peuvent avoir certaines raisons d'être. Mais personnellement, par rapport à ce que je suis au pays, je trouve qu'on ne doit pas seulement s'arrêter à ce seul aspect. Parce que, personnellement, je trouve que nous devons tenter d'orienter ce débat autour de tous les autres paramètres régissant chaque État qui se veut souverain. La question que moi je me pose personnellement est de savoir qui ouvre toutes ces portes, qui offre tous ces espaces pour que les autres s'interfèrent dans nos affaires internes. Alors, chaque État qui se veut souverain et qui est géré selon les normes classiques de la démocratie doit aussi respecter toutes ces lois en vigueur, veiller à sa stricte application dans son intégralité. Mais si déjà de l'intérieur, on ouvre des portes pour ignorer des propres lois en vigueur, quelle serait alors la teneur et la primeur de la souveraineté qu'on veut défendre à l'extérieur? Je crois que nous devons nous congoler, nous donner du courage pour nous poser des questions. Est-ce que nous-mêmes d'abord, nous sommes en mesure de respecter toutes nos lois? Est-ce que nous veillons à leur stricte application? C'est à base des éléments de réponse que nous allons nous donner que nous pouvons maintenant aller objecter devant les autres qui ont tendance à ignorer notre souveraineté. Mais si de l'intérieur, nous avons encore des problèmes de débat autour du respect des lois, est-ce qu'on peut encore parler de la souveraineté là où les lois internes ne sont pas correctement respectées par les gens même qui les ont votées et qui les ont promulguées?
Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai, en lisant la résolution 2277, il a été demandé à la MONUSCO, encore à la communauté internationale, d'apporter quand même ses beaux offices à la politique intérieure de la RDC.
Oui, mais monsieur le journaliste, on peut demander à la MONUSCO, on peut demander à tout le monde de porter des bons offices. On en a besoin, on en aura besoin, mais je crois que ces bons offices doivent être apportés en fonction des lois en vigueur au sein de la République. Mais si toutes ces lois-là ne sont pas correctement appliquées, si toutes ces lois ne sont pas correctement respectées, quel impact auraient tous ces bons offices qu'on attendrait des autres? Moi, je crois que on ne doit pas seulement objecter, mais nous devons d'abord nous poser des questions en tant que Congolais. Est-ce que nous respectons nos lois? Si nous savons que nous respectons nos lois, nous allons objecter ensemble d'une seule voix pour protéger notre souveraineté. Mais déjà du niveau interne, si nous savons qu'il y a des débats très amer autour du respect des textes, c'est à ce niveau-là que nous ouvrons des portes aux autres pour nous interpeller. Et parfois, quand on parle maintenant des ingérences étrangères, c'est à base des objections à caractère des rappels ou qu'on est en train de nous faire. Mais moi, je trouve que le débat doit être axé autour du respect des textes. Si nous respectons nos textes, nous allons dire aux autres, nous respectons nos textes, nous savons que notre pays est géré de manière démocratique, nous sommes souverains, nous avons besoin de bons offices, venant de tel ou de tel, ça va, on dit merci. Mais si déjà de l'intérieur, ce n'est pas encore le cas, est-ce qu'on peut parler de la souveraineté si on sait soi-même qu'au sein de mon pays, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la manière dont les textes sont respectés?
Merci beaucoup, Franck Mboni. Vous avez rejoint pratiquement les auditeurs qui vous ont précédé dans leurs réflexions par rapport à cette émission, en évoquant bien entendu aussi les paramètres qui régissent un État qui se fait souverain. Et là, vous avez entre autres évoqué donc la capacité d'un État de veiller à la stricte application de ses lois. Et c'est à ce niveau-là qu'on reconnaîtra un pays réellement souverain. 081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Okapi Danse, du rythme de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'Afrique ou d'ailleurs, tous les tempos mixés par DJ Daddy. Okapi Danse, du mercredi jeudi de 21h à minuit, le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Voilà, il faut encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine qui débat sur la RDC, qui rejette et condamne formellement l'ingérence des gouvernements étrangers dans ses affaires intérieures. Nous venons d'écouter là quelques auditeurs, Maître Trésor de Kinshasa, Sylvain Debounia, Franck de Kinshasa et puis Alain de Lubumbashi. Alors, dans son ensemble, avant d'accorder la parole à notre invité qui est l'un des communicateurs de la majorité, Serge Kadima, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez suivi cette série des auditeurs. Il y a quelque part les uns qui ont soutenu cette proposition du gouvernement, affirmée par les billets de son porte-parole, qui évoque en fait l'ingérence de gouvernements étrangers dans les affaires intérieures du pays. Et de l'autre côté, des auditeurs qui en fait évoquent quelques paramètres qui entrent en ligne des comptes, et notamment en relations internationales, où la coopération des États qui tiennent au respect de certains principes, entre autres la capacité de pouvoir instaurer les systèmes qui respectent la gouvernance mondiale. Que répondez-vous aux uns aux autres?
Merci pour cette invitation. J'aimerais d'emblée déjà vous dire que nous, la République démocratique du Congo, membres d'instruments internationaux. C'est vrai que de temps en temps, il y a une faiblesse qui se dégage de temps en temps lorsque les gens se prononcent, une faiblesse conceptuelle par rapport à la communauté internationale. On ne peut pas réduire la communauté internationale à 5 pays membres permanents de l'ONU parce que vous savez que même l'ONU elle-même a les pouvoirs que sur les États qui sont membres, qui sont signataires. Donc le problème ici, c'est qu'il y a des principes. Il y a des principes qui régissent les États membres de ces instruments internationaux. Le plus grand principe, c'est l'égalité. J'ai suivi les auditeurs qui sont intervenus. Évidemment, la plupart ont raison, en grande partie, en large majorité, en large partie. C'est comme ça que je voulais dire que tous les États membres, par exemple, des instruments internationaux, sinon des structures internationaux, sont égaux, sinon devant la loi, du point de vue des droits. Parce que chaque État, est indépendant, chaque État est souverain. C'est comme ça que vous verrez même que, même pour les simples dons, il y a ce qu'on appelle l'accord des dons. C'est-à-dire que nous avons accepté de travailler ensemble pour certaines matières. La souveraineté reste au peuple de tout État ou de chaque pays membre de différentes structures. Donc, pour ce qui nous concerne, je pense bien que la position du porte-parole du gouvernement, c'est une position qui engage notre pays. C'est-à-dire qu'il y a des questions sur lesquelles nous sommes partie prenante. Lorsqu'on discute, on lève une option ensemble en tant que membre. Mais il y a des options pour lesquelles la souveraineté nationale, selon notre constitution, n'est pas à négocier, n'est pas discutable. C'est les peuples congolais qui se trouvent à être souverains. Sur des questions qui touchent la souveraineté nationale, c'est au peuple congolais qu'on doit la poser la question, ou c'est le peuple congolais qui doit se prononcer. Évidemment, nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire, nous pouvons être peut-être limités, ou bien on peut peut-être avoir besoin d'avoir un avis, d'avoir un conseil, d'avoir un soutien dans tel ou tel autre domaine, on peut se référer aux partenaires. Ou bien les partenaires peuvent, pour une raison ou une autre, considérer qu'ils peuvent nous apporter un appui, un soutien ou un accompagnement dans tel ou tel autre domaine, mais sans cesser dans le respect des instruments juridiques existants dans tous ces instruments internationaux. Donc, lorsque le porte-parole se prononce, c'est parce que on a quand même, depuis un certain temps, remarqué certaines incohérences. Vous savez, dans la diplomatie classique, nous avons chaque pays a des représentants ici, les gens qu'on appelle les ambassadeurs. Nous avons un ambassadeur pour prendre les cas des États-Unis. Nous avons un ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. Les États-Unis a un représentant dans la région des Grands Lacs. Alors, il arrive par moment que dans la diplomatie classique, l'ambassadeur donne une position et dans les heures qui suivent ou bien dans les jours qui suivent, les représentants des Nations Unies dans les pays des Grands Lacs donnent une autre position qui va en contradiction avec la position donnée par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Vous voyez maintenant que cette incohérence-là dénote une certaine ingérence dans la mesure où nous nous posons la question. Devons-nous nous en tenir à ce qu'a dit l'ambassadeur ici ou bien ce qu'a dit son représentant là-bas?
Oui, monsieur Serge, est-ce que cette incohérence vient dans l'insistance de la communauté internationale pour le respect de l'organisation de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels, ou bien cette incohérence tient dans des propos, par exemple, ciblés sur des personnalités politiques hein, qui rentrent peut-être ou qui nous amèneraient à conclure qu'il s'agit là de règlement des comptes ou de problèmes des conflits individuels, quoi.
C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure là, qu'on doit éviter de réduire la communauté internationale aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas parce que le représentant des États-Unis dans la région des Grands Lacs ou bien son ambassadeur dans un pays africain a parlé qu'on doit considérer que c'est une position de la communauté internationale. Parce que la communauté internationale veut dire que tous les États du monde sont membres dans une structure. Et je n'en connais pas une structure aujourd'hui qui regroupe tous les États du monde. Par rapport à cela, est-ce que la position des États-Unis est forcément la position de la Chine? Je ne pense pas que ce soit forcément la position de la Russie, que ce soit forcément la position de tous les pays qui ne sont pas membres ou bien qui n'ont pas...
Alors, monsieur Serge, j'ai l'occasion présente les larrons. Qu'est-ce qui, en fait, divise aujourd'hui les États-Unis et la RDC? C'est le respect de la Constitution? Ou c'est, je ne sais pas, l'entendement, selon vous, dans la majorité, de cette ingérence politique?
Je pense que ce qui nous divise aujourd'hui, c'est que c'est peut-être parce que la République démocratique du Congo ne veut pas s'ingérer à ce qui se passe aux États-Unis et que les États-Unis pensent jouer le rôle du peuple congolais et le peuple congolais n'est pas d'accord. Vous voyez par exemple la question en rapport avec les élections. Nous sommes d'accord, nous l'avons toujours dit au niveau de la majorité, que nous voulons respecter la Constitution. Nous voulons qu'on organise des élections et des bonnes élections. On ne veut pas organiser des élections dans la précipitation. On ne veut pas organiser des élections sans un calendrier consensuel qui avait pas que tous les calendriers n'ont été rejetés par les opposants. Alors, je pense que le bon sens voudrait que la communauté internationale, les États-Unis, ils veulent jouer un rôle à ces jours, c'est de nous aider en nous accompagnant avec des idées constructives, fécondantes, pour l'organisation du dialogue qui pourra nous permettre d'organiser de bonnes élections qui viendra cimenter la démocratie dans notre pays. Alors, commencer à vouloir jouer le rôle de la population congolaise, commencer à donner des messages qui risquent d'appeler au soulèvement, nous pensons qu'on ne peut pas accepter cela. Et
est-ce que vous ne pensez pas comme l'auditeur Franck l'a dit tout à l'heure, la souveraineté repose également aussi dans la stricte application hein, de lois du pays, par exemple, notamment le mandat présidentiel, les mandats de membres des institutions et aussi le processus, l'échéance du processus électoral tel que proposé par le peuple.
je suis d'accord avec lui. Je suis parfaitement d'accord avec lui que la souveraineté aussi voudrait que le respect les lois de la République démocratique du Congo. Alors, la meilleure façon de les respecter, c'est de temps en temps nous référer au peuple congolais. On peut voter une loi pour, je peux donner un exemple, pour des raisons, par exemple, de climat, pour l'atmosphère, par exemple, délétère. Par exemple, il y a la pluie. Par exemple, il y a des contraintes liées au financement de l'élection. Il y a des contraintes liées au fait que l'opposition aujourd'hui n'a jamais accepté les calomnies dans notre pays. On n'a pas pu organiser les élections. Comment on fait? Ça se passe partout au monde. Le secrétaire général du PPRD l'a dit dernièrement que même dans le pays où on parle de la démocratie, il y a quand même des reports d'élections d'un jour, d'une semaine, d'un mois ou bien de quelques années. Alors, si cela arrivait chez nous, je ne vois pas pourquoi un autre pays qui n'a rien à voir directement avec la population congolaise vient de prononcer. Ils peuvent, à la limite, nous donner des conseils sur la manière de contourner, par exemple, le dépassement d'un jour, au regard du fait qu'il y a des contraintes déclarées par la CENI elle-même, organe indépendant, technique, habilité à organiser les élections selon la mission lui confiée par la Constitution. C'est comme ça que nous disons, nous sommes prédisposés à respecter les lois de la République, à respecter la Constitution de la République, mais nous devons le faire dans l'harmonie, on ne doit pas le faire dans la précipitation. Pour le cas échéant, nous pensons que la population congolaise, elle est mature, et surtout qu'on venait de fêter le 56e anniversaire de notre indépendance. Il y a beaucoup de choses à nous reprocher, nous, en tant
que... Serge, parce que vous êtes communicateur de la majorité, ce n'est plus un secret. Aujourd'hui, on voit quelques responsables de la majorité donner de la voix pour dire qu'effectivement, c'est vrai, tous on est d'accord pour aller aux élections, mais de l'autre côté, il y a l'opposition qui insiste sur le message du chef de l'État qui doit se prononcer s'il a besoin du troisième mandat. Alors, vous êtes de la majorité, on sent peut-être tout autour de certains membres de la majorité parler de Oumela ou encore, solliciter la transition. Est-ce que cela ne peut pas constituer aussi un regard de la communauté internationale pour dire, mais voilà, là, ça risque de ne pas respecter la Constitution?
Non, je ne veux pas qu'on parle de la communauté nationale, des pays étrangers. Je pense pas que les pays étrangers que je respecte beaucoup, qui sont structurés, peuvent se fier aux rumeurs. Lorsqu'ils disent que le président Kabila ou bien il y a des gens qui parlent de Oumela et consorts, les pays étrangers savent les canaux par lesquels ils discutent avec l'État congolais ou bien ils ont le point de vue de notre pays. Qu'un pays nous dise, par exemple, qu'ils ont été avec une ministre d'affaires étrangères ou bien avec un officier congolais qui les avait dit, par exemple, que le président Kabila dit qu'il aura un troisième mandat, ou bien le président Kabila veut une transition. Je pense que ce sont des rumeurs. On ne peut pas prétester la position aujourd'hui de certains pays amis sur base des rumeurs. Alors, pour vous répondre en tant que communicateur de la majorité présidentielle, je ne me rappelle pas avoir participé à une réunion où je ne me rappelle pas avoir entendu le président Joseph Kabila dire qu'il a besoin d'un troisième mandat. Je peux vous rassurer que tout ce dont il a besoin, c'est la paix pour les Congolais. Tout ce dont il a besoin, c'est de développer le pays. Et pour le reste, le président Joseph Kabila a été voté pour un mandat de 5 ans. Et je pense que c'est le deuxième mandat. Il n'a pas besoin d'un troisième mandat.
Merci.
Il a toujours dit.
Merci Serge. Nous vous gardons encore en ligne. Le temps de rouvrir les standards et écouter d'autres auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre également. Maître Olivier qui est à Guadeloupe, ou Hippolyte à Kikuité, 081-890-7315. Vous avez la possibilité de nous appeler en direct et aussi la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Capi.
Maître Olivier, vous êtes à Guadeloupe, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Voilà, Maître Olivier, on prend plutôt Hippolyte qui est à Kikwiti. Hippolyte, bonjour.
Bonjour, Julien.
Quel est votre avis, Hippolyte?
Je commence par me poser une question si tout ce qui est dit par le
le porte-parole du gouvernement vient des autorités gouvernementales ou vient de lui-même. Mais si cela vient des autorités, je pense que ce qui a déploré, c'est aussi l'attitude hein, ou le ton qu'a le ministre prétendant qu'il s'exprime. Quand il faut déclarer la RDC comme un pays souverain, je pense que cette souveraineté, nous devons l'avoir dans tous différents aspects. Il y a l'aspect juridique, politique, matériel. Alors, quand les États-Unis montent au créneau, quelque part, ils soutiennent les droits du peuple congolais. Et c'est nous, Congolais, qui devons nous réjouir, je pense. Il n'y a pas à condamner là-dessus. Parce que le constat est tel que quand c'est un candidat de l'opposition qui est condamné, le gouvernement est prêt à prendre acte. Et si on pointe du doigt le gouvernement, on dit non, le pays est souverain. Alors, qui doit être menacé, qui doit être privilégié, on ne comprend pas. Moi, je prends cette chose-là pour voir, par exemple, que la communauté a raison pour dire que quand on voit l'aspect matériel, par exemple, quand l'opposition aujourd'hui est écrasée comme un ver de terre, est-ce que la communauté internationale doit garder silence? Non. Elle doit intervenir pour voir, entendre par exemple M. Pirolo qui a dit qu'ils ne soutiennent pas un seul candidat, mais ils sont là pour respecter les droits du peuple congolais. Pourquoi est-ce que le gouvernement doit être agité? Parce que jusque-là, ils n'ont pas cité une seule autorité qui est pointée du doigt pour être sanctionnée. Mais on sent que ce message de la communauté internationale est en train d'agiter déjà la classe politique de la majorité. Pourquoi?
Voilà, et Hippolyte, si je comprends bien, pour vous, hein, vous voulez en fait avoir un peu d'éclairage, je crois que le porte-parole ou encore le communicateur de la majorité qui est avec nous pourrait nous éclairer là-dessus. En fait, il concerne la position du porte-parole du gouvernement. Je crois que nous devons le rappeler, il est le porte-parole du gouvernement, donc tout ce qu'il dit engage le gouvernement. Donc c'est lui qui annonce, qui affirme la position du gouvernement congolais. Je crois que c'est dans le terme de référence de sa mission. Et vous évoquez des cas d'arrestation qu'on a pu enregistrer, hein, de certains Congolais interpellés dans les différentes cours internationales, où on a vu la réaction des autorités congolaises qui n'ont simplement pris acte de cette décision. Alors, où est la souveraineté, selon vous, donc, par rapport à cette position? Merci beaucoup, Hippolyte. Olivier, vous êtes à Guadeloupe. Bonjour, Olivier. Olivier, vous êtes avec nous? Voilà, décidément, on a des petits soucis avec la ligne de Olivier qui nous a appelé de Guadeloupe. On va prendre le message de Gabriel Saleh Bilungi, qui dit ceci: en tant qu'État indépendant, notre pays ne doit pas permettre cette ingérence. Du fait que nous sommes un pays souverain et indépendant. Toutefois, le cas d'un sujet congolais qu'on gèle ou on suspend ou on retient ses fonds par un service ou une banque pour s'imprégner de la source des provenances et éviter les déblanchements des capitaux, je relativise cela quand il s'agit des institutions internationales à qui notre pays a ratifié sur base du principe de la suprématie des lois étrangères sur les lois nationales. Guilain dit ceci: cette ingérence est plutôt caractérisée par le non-respect de la Constitution. Non seulement ça, mais aussi un manque de patriotisme, parce que s'il n'y a pas élection, il y aura toujours des pays étrangers qui vont avoir un regard tourné vers la RDC pour permettre à ce qu'on puisse avoir de l'attention sur les uns et les autres. Mais il est temps quand même pour nous de rappeler certains principes de la souveraineté. Donc dans les faits, il est dit quand même qu'une mission d'ingérence est contraire aux objectifs fondamentaux de l'ONU, et qui repose donc au respect de la souveraineté des États et maintien de la paix, selon l'article 2.7 de la Charte des Nations Unies, qui dispose qu'aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. Alors, Omar, vous nous avez rejoint. Bonjour, Omar.
Bonjour, Sia Longembo, et merci pour la parole.
Quel est votre avis, Omar?
Merci rapidement, J.R., puisque le temps est défaut. Je m'en vais pour dire ce que je suis. Et mon intervention a deux segments. Premièrement, sur le plan juridique, je pense qu'il faudra rappeler que, autant au niveau interne, les gens sont organisés, autant au niveau international, les États sont organisés. Et les rapports entre États sont régis par ce qu'on appelle le droit international. Ces droits qui n'est pas fondé par la charte de l'ONU que vous avez citée, par la convention de Vienne de 69 et différents autres traités, précise et mette en place des principes que personne ne peut déroger, qu'on appelle en droit des jus progresses, des normes impératives. Le premier, c'est les principes de la souveraineté des États. Ce que veut dire souveraineté? C'est le fait pour un État d'être indépendant et de ne recevoir aucune injonction de notre État. Deuxième principe, c'est l'égalité souveraine des États. On suppose que tous les États du monde sont égaux et personne n'est au-dessus de l'autre. Et le troisième principe, c'est la non-ingérence dans les affaires internes. Ça, c'est du point de vue juridique JR. Donc, ça, c'est le principe. Mais de façon exceptionnelle, puisque l'objectif premier de l'ONU est de maintenir la paix au monde et le second, de protéger les droits de l'homme, lorsqu'on estime que dans une société donnée, qui est la nation unie, excusez-moi, des Nations unies, il y a des violations graves des droits de l'homme, on peut appliquer le chapitre 7 de l'ONU. Un État tiers, un État autre, ne peut intervenir dans un autre État seulement sur le mandat du Conseil de sécurité. Mais les faire de façon indépendante, comme l'ont fait les États-Unis, en tout cas, je soutiens la proposition ou les propos du ministre Lambert pour dire que nous sommes intervenants. On ne peut intervenir de façon humanitaire que si et seulement si il est avéré, il est démontré qu'il y a des violations dans un État donné et que les conseils de sécurité les permettent. C'est ça le point international. Mais du point de vue politique, c'est par là que je suis pour dire, c'est vrai que les droits posent les principes de la non-ingérence, il faut aussi qu'au niveau interne, les États apprennent à s'organiser. Si les droits posent les principes, la sociologie ou la politique posent leur réalité. Aujourd'hui, il est démontré qu'au niveau interne, surtout les États africains, n'arrivent pas à respecter les droits de l'homme. C'est vrai qu'il y a une violation du droit international, mais ça doit nous interpeller de telle façon nous devons nous organiser, respecter les règles établies. Mais moi, je pense que la solution est au niveau interne, la conscience nationale et des gouvernants et des gouvernés. Pas les États-Unis, ils sont allés au Pakistan, un État souverain. Ils ont violé un principe s'approchant des droits internationaux. Ils ont franchi les frontières pakistanaises. Ils ont allé sur Osama Ben Laden. Qui s'est opposé ici pour dire on a gelé les avoirs d'un ministre américain? Ils sont allés en Irak en 2003. Ils ont intervenu sans l'accord de l'ONU. Qui les a, n'est-ce pas, condamnés? Ils ont refusé de ratifier l'accord de la Cour pénale internationale. Qui les a condamnés? Il est temps que chaque Africain se prenne en charge. Mais la souveraineté, je finis par l'agir, ne veut pas dire la légèreté ou la
politique. Oui, Omar, vous êtes peut-être congolais. Est-ce que vous avez déjà eu à faire une lecture pour vous poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qui divise ces États avec la RDC aujourd'hui, pendant cette période?
Ah, merci. Le vrai problème, c'est quoi? C'est un problème de conscience et de non-respect des règles établies. Ce qui divise, c'est que la RDC brille souvent par la violation des droits de l'homme, par le non-respect des lois. L'idée est bonne des États-Unis, l'idée est très bonne, mais la procédure n'est pas bonne. L'idée de conseiller la RDC, l'idée de déplorer les droits de l'homme qui sont violés, même au niveau interne qui sont déplorés, c'est une très bonne idée. Mais la procédure des sanctions n'est pas appliquée. Même en diplomatie, avant de procéder au jeu des avoirs, il doit y voir une convention préalable qui le soutient. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en droit international le volontarisme. On ne peut appliquer des normes sur un État que s'il les a ratifiées. Donc ce qui divise le Congo et ses nations entre guillemets puissances, c'est les non-respect des droits qui sont appliqués. Mais moi je pense que les États n'aiment pas le Congo, n'aiment pas les Congolais. C'est les Congolais qu'ils aiment. Si vous faites une étude à temps intellectuel, si aujourd'hui on a des conflits armés en Afrique, c'est parce qu'il y a la présence d'intérêts étrangers des soi-disant communautés internationales. Nous sommes d'accord même au niveau interne qu'il y a des problèmes qui ne marchent pas, les processus électoraux ne marchent pas, les délais ne sont pas respectés, mais je ne pense pas que c'est un autre État qui viendra les changer. Les conseils, nous sommes d'accord, les propositions, nous sommes d'accord, mais il est temps que chaque pays africain se prenne en charge. Ce qui divise, c'est quoi? C'est le non-respect des règles établies. L'idée est très bonne, mais il faudra le faire sous le mandat du Conseil de sécurité, tel que le fait
oui, mais d'autres estiment que autant nous acceptons l'ingérence humanitaire, autant nous devons accepter également l'ingérence politique. Parce que la main qui donne, c'est la main qui contrôle, qui est toujours au-dessus.
Ça, c'est une analyse politique. Voilà pourquoi j'avais dit mon analyse était à la fois juridique et politique. Sur le plan juridique, on ne peut pas accepter l'ingérence humanitaire qui ne peut se faire que dans les cas des violations graves des droits de l'homme et sous l'autorité du Conseil de sécurité. Mais sur le plan politique, là, je vous tiens, c'est pour dire qu'il faut, au niveau interne, s'organiser. On ne peut pas s'autoproclamer souverain sur le plan théorique et juridique si politiquement on n'est pas fort. Aujourd'hui, la Russie a soutenu la Syrie. Est-ce qu'on a vu un État s'opposer à la Syrie, à la Russie? Personne. Aujourd'hui, il y a des États comme Israël qui s'opposent à tout le monde par rapport à la Palestine. Personne. Donc, c'est une conscience. Il faut
s'afficher politiquement, parce qu'en relation internationale, il ne faut pas seulement se déclarer souverain, il faut aussi mettre en place des mécanismes forts, notamment en organisant l'armée, la police, notamment en organisant notre diplomatie, qui ne doit pas être une simple représentation, mais une diplomatie d'action et de coopération directe. Donc, sur le plan politique, je vous dis, vous avez raison, tout est question d'interpellation. On doit s'organiser, on doit avoir une armée forte, car en relation internationale, ce sont les rapports des forces utiles.
Est-ce que vous êtes, d'avis qu'aujourd'hui, c'est l'organisation des élections dans les délais constitutionnels qui divise également ces nations à la RDC?
Oui, en tout cas, c'est là, même au niveau interne, on l'a décrié. Sur le plan politique, vous l'avez dit, la main qui donne, c'est elle qui impose. Il ne suffit pas de dire à tout le monde, nous sommes souverains, mais si vous continuez à défendre. Juridiquement, oui, nous sommes souverains, mais politiquement, il y a encore de préalables à qui doivent être mis. Quelle économie avez-vous? Quelle finance avez-vous? La main qui donne est celle qui impose. Pour refuser les ingérences politiques, vous devez être en mesure vous-même, qui êtes là, de ne pas accepter des effets des aides. Donc, le vrai problème passe par la conscientisation, d'abord au niveau interne, savoir.
Et le respect des règles établies. Merci. Merci Omar. Et
de recevoir les aides des autres, car on finira toujours par vous imposer politiquement.
Merci beaucoup Omar d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre Joséphine qui est à Boston. Joséphine, bonjour.
Ah, bonjour Radio Capi, hein. Merci de m'avoir passé la parole. Ah, je vais dire ceci. D'emblée, je vais répondre au monsieur qui demandait de quelle crise on parle. Maintenant là, on est en train de parler d'une crise d'organisation des élections. Je vais retourner en 2005, hein, en 2005, et puis je vais utiliser le mot qu'on a amené au Congo. En 2005, on a amené la modernisation, la mondialisation de la modernisation.
La révolution de la modernité.
Ok, la révolution de la modernité, hein, dans la mondialisation. Déjà, ça, le mot-là, c'est ça même, l'organisation mondiale est entrée au Congo pour demander, nous amener le président Kabila pour qu'il puisse organiser les élections pour nous. Hein, c'est la main qui l'a amené, les gens là l'ont amené, ils l'ont utilisé pour qu'ils expliquent au peuple congolais le bien fondé d'organiser les élections pacifiques. Et merci beaucoup, le président Kabila l'a fait en 2005 avec l'appui de tous ces gens-là qu'on est en train de réviser aujourd'hui. En 2011, il l'a fait encore. Je me rappelle très bien, j'ai appelé ma mère en 2005, ma défunte mère qui avait plus de 70 ans. Elle a parlé de la modernisation. J'étais très étonnée parce que c'est le mot qu'elle a écouté tout le temps. C'est bon, on a donné confiance. Maintenant, moi, je me demande, si vous avez accepté en 2005 d'organiser les élections, en 2011 d'organiser les élections, c'est-à-dire que les gens qui vous ont amené, ils vous ont apprécié. Et maintenant, pour la troisième fois, pour organiser les élections pour la troisième fois, vous commencez à poser des problèmes. Normalement, si un gouvernement a déjà organisé les élections deux fois, les dépenses doivent être réduites. Maintenant,
voilà, madame, on s'en voilà, merci. Alors, beaucoup, madame, on l'a compris. Vous avez, donc pour vous, c'est prêt, la communauté internationale, les États qui nous accompagnent dans ces processus, ils ne peuvent que se plaindre parce qu'ils ont mis des moyens en 2006, en 2011. Voilà, ils ne trouvent pas de raison pour qu'on n'organise pas des élections maintenant. Merci beaucoup. Alors, on va prendre rapidement Serge Kadima, qui est le communicateur de la majorité. Avec lui, on va conclure quand même cette émission. Serge, vous êtes avec nous?
Oui, je suis.
Alors, vous avez écouté cette dernière série des auditeurs, les uns, en fait, soutiennent, comme c'était dans la première partie, et les autres évoquent quand même quelques inquiétudes par rapport à cette souveraineté, cette notion de souveraineté. Alors, que répondez-vous? Comment orientez-vous les interventions des uns et des autres?
Alors, j'ai beaucoup apprécié toutes les interventions. J'ai suivi Pauline, j'ai suivi Gabriel, j'ai suivi également Omar et notre compatriote aux États-Unis. Alors, si je dois le résumer, si je dois me permettre de le résumer, c'est que j'ai compris que la patrie, c'est ce qui nous met ensemble, ce que nous avons en commun, et tous sont d'accord que la souveraineté nationale n'est pas négociée. Je suis dit quand même Omar qui a donné, qui a été quand même très intelligent dans ses réactions. Il a donné des points sur le plan juridique et sur le plan politique, mais là, quand même, péché, lorsqu'il est en train de chuter après avoir expliqué ce qu'il y a ou ce qui doit être fait en disant que non, oui, voilà, il y a quand même une exception. Je ne pense pas que l'exception doit surmonter ce qui doit être au-dessus de la règle. La règle, c'est ce que nous disons, qu'il y a l'égalité des États. Alors, ce qui s'est défini dans le cadre des structures internationales auxquelles nous avons, pour lesquelles nous sommes membres, ou bien là où nous avons signé des traités, nous pensons que là, on peut, dans la mesure du possible, faire les recours. Mais lorsque les États sortent du cadre dans lequel nous sommes membres ensemble pour commencer à prendre des décisions ou donner des positions de manière isolée, je pense que là, il y a un problème. C'est comme ça que je dis, il y a une faiblesse conceptuelle dans le chef de certains de nos compatriotes. Il y a certains compatriotes qui donnent aussi des pouvoirs à certains États, à certains pays amis, de commencer à faire n'importe quelle déclaration. Lorsque vous suivez les politiques, peut-être en coulisses, même de manière officielle, qui vous disent, non, moi j'ai un carnet d'adresse dans tel ou tel autre pays, et que sont des qui mettent des présidents au pays. Je pense qu'après 56 ans d'indépendance, c'est cracher sur la mémoire de nos héros, c'est ne pas respecter la population congolaise. Parce que, depuis un certain temps, dans notre pays, nous avons accepté de remettre le pouvoir au peuple congolais, et c'est le peuple congolais
qui a le pouvoir à qui veut. Dommage, on doit devoir nous arrêter là. Monsieur Serge Kadima, merci d'avoir accepté notre invitation, et surtout la promptitude avec laquelle vous avez accepté cette invitation pour participer à cette émission. Et nous rappelons que vous êtes l'un des communicateurs de la majorité, et vous répondez aux préoccupations des uns et des autres. Merci à vous tous qui avez participé à cet échange citoyen ici au pays et à l'étranger. Nous disons merci également à André Mongou qui a assuré la mise en œuvre de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie, une émission qui nous a été coordonnée et présentée par Gilles Lungembo sous la supervision de Martin. C'est vous, Jean-Louis. On se retrouve demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs.